Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Faut-il une nouvelle réforme de l'assurance chômage? Gabriel Attal dévoile son jeu ce soir. Les syndicats l'attendent de pied ferme. Un avant-goût de la semaine de 4 jours. La semaine en 4 jours. On fera le premier bilan de l'expérimentation en cours. Et puis une double page exceptionnelle dans ce journal au sujet de l'économie de guerre. Reportage dans une usine de poudre. Et nous serons aussi au milieu des cybercombattants français. Vers une nouvelle réforme de l'assurance chômage, Gabriel Attal devrait en dessiner les contours ce soir lors du journal de 20h de TF1 dans cette séquence autour des finances publiques, du déficit annoncé à 5,5% hier au lieu de 4,9%. Le Premier ministre s'est déjà largement exprimé sur ce sujet du chômage ces dernières semaines. Il veut réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi pour inciter à la reprise d'activité. Les syndicats et le patronat s'étranglent déjà en partie. Il faut dire qu'ils sont en train de négocier en même temps sur des sujets tout à fait lié, et il s'inquiète globalement d'une reprise en main de l'assurance chômage par l'État s'il n'arrivait pas à signer un accord d'ici au 8 avril prochain. François Omril est le représentant des cadres puisqu'il préside la CFE-CGC.
Si Gabriel Attal avait dit « j'ai désormais la certitude que la Terre est plate », tout le monde se dirait « mais Gabriel Attal visiblement a besoin de repos ». Or, quand il dit « je vais réduire les droits des chômeurs pour avoir un impact sur l'emploi », c'est exactement la même chose qu'il dit. Il n'existe aucune étude qui prouve qu'en réduisant les droits des chômeurs, on avait un impact sur le niveau de l'emploi. Absolument aucune. Au passage, ils se contredisent eux-mêmes, puisque alors que la conjoncture économique se dégrade en 2024, ils souhaitent durcir les conditions, ce qui était l'inverse de leur position il y a 2 ans. Moi, je suis effaré de ce niveau d'inculture dans le raisonnement et dans le positionnement politique. C'est très, très inquiétant.
Dans ce monde du travail, il y a comme une révolution en cours dans une partie des entreprises, celles qui peuvent se le permettre. La semaine en 4 jours, quitter le bureau un peu plus tard le soir, mais ne travailler que 4 jours par semaine, les fonctionnaires testeront aussi cette formule dans les ministères. Départ de l'expérimentation entre ce printemps et le mois de septembre pour une durée d'au moins 1 an. Un premier bilan devrait être dressé à l'été 2025. Il y a d'ailleurs un séminaire de travail organisé aujourd'hui à Matignon autour de ce sujet aussi, et aussi de l'assurance chômage. La métropole de Lyon, elle, expérimente ce dispositif depuis septembre dernier. 300 agents aménagent leur semaine différemment, sans réduction du temps de travail. C'est la différence entre la semaine 2-4 jours et la semaine en 4 jours. Alors 6 mois plus tard, le bilan est encourageant, Zoé Pallier.
Elle avance d'un pas vif, dossier sous le bras et sourire aux lèvres.
Je reviens d'un week-end de 3 jours.
Clémentine Leterrier est cadre à la métropole de Lyon. Une semaine sur 2, elle ne travaille que du lundi au jeudi.
J'ai mon agenda sous les yeux. Donc effectivement, là, je suis à 32 heures la semaine de 4 jours et à 40 heures la semaine de 5 jours.
Est-ce que vous sentez une différence quand vous ne travaillez que 4 jours?
Oui, j'arrive le lundi matin beaucoup plus productive parce que mieux reposée. Sur la préparation de certaines réunions, là, en 15 minutes, je fais ce que j'aurais pu mettre une heure à faire.
Félix Wilmet, lui, est ingénieur, chef de projet. À 34 ans, il ne travaille plus aucun vendredi.
J'ai divisé par à peu près 4 mon volume de RTT, et en sachant que personnellement, j'avais du mal à poser tous nos congés. Donc globalement, je m'y retrouve tout à fait. Je serais très malheureux si je revenais en arrière.
Dans une enquête menée en interne, 89% des chefs d'équipe estiment que cette nouvelle organisation n'a pas d'effet négatif. Elle nous rend même plus attractifs, souligne Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon.
Entre décembre 2022 et décembre 2023, on a 25% de plus de candidats sur les postes ouverts par la métropole de Lyon, et le fait de recruter plus facilement fait que nos postes sont occupés et donc que le service public est mieux rendu.
Mais cette semaine de 4 jours sans réduction du temps de travail ne concerne pas tous les postes. Plus les tâches sont pénibles physiquement, comme la collecte de déchets, plus il est compliqué d'étirer les journées.
Zoé Pallier pour Radio Classique. On ouvre donc une page spéciale sur l'économie de guerre dans ce journal de l'économie. On le sait, l'armée ukrainienne manque de munitions, c'est l'un des principaux problèmes en ce moment. Impossible aujourd'hui de lui en fournir plus, car dans la plupart des pays, dont la France, nous n'avons plus d'usine capable de fabriquer de la poudre. L'an dernier, le ministère de la Défense a donc signé un accord avec Eurenco, l'entreprise qui fabrique des obus de 155 mm, ceux utilisés par les fameux canons César, pour reconstruire une usine de ce type à Bergerac, en Dordogne. C'est le reportage de Céline Cajoulis.
Depuis quelques semaines, ici à Bergerac, les 330 salariés sont passés en mode économie de guerre, c'est-à-dire qu'ils se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour fournir 500 000 obus par an. Mais ce n'est pas suffisant pour alimenter l'Ukraine, car la France n'arrive pas à acheter plus de poudre sur un marché mondial en tension. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense et des Armées.
On est dépendant de pays étrangers pour le faire, l'Allemagne, des pays du nord de l'Europe. Pour l'aide à l'Ukraine, on se retrouve à devoir recycler des poudres de munitions anciennes pour faire de nouvelles poudres. Bon, ça a quelques vertus, mais enfin, c'est pas complètement comme ça que ça devrait fonctionner, si on est honnête. Et donc, c'est pour ça qu'on met fin à ça avec la production de poudre.
Pour répondre à la demande, Renko a donc commencé à construire une usine qui, dès la fin de l'année prochaine, fabriquera suffisamment de poudre pour doubler la production actuelle, comme nous l'explique son PDG, Thierry François.
Cet ensemble de poudre va nous permettre d'avoir un ensemble cohérent pour fabriquer les charges et au final, l'ensemble des coûts complets pour les armées. Aujourd'hui, nous faisons 500 000 charges et nous allons encore aussi augmenter la performance de ces lignes. Globalement, nous allons monter à 1 200 000 charges sur cette usine de Bergerac.
En attendant, cette année, la production française sera livrée à 80% à l'Ukraine.
Céline Cajoulis, on entendait à l'instant le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a par ailleurs haussé le ton, justement, à l'adresse des industriels de la défense, auprès desquels l'État a passé 20 milliards d'euros de commandes. Il faut passer à la vitesse supérieure. Le ministre des Armées trouve que ces entreprises n'accélèrent pas assez leur production. Alors, il les prévient qu'ils pourraient réquisitionner ces entreprises.
Vous avez des entreprises qui sont duales, avoir une commande civile, une commande militaire. Bah, comment on dit à l'industriel, vous n'avez pas le choix. La commande militaire passe en priorité sur la commande civile. C'est vrai pour l'industriel, c'est vrai surtout pour ses sous-traitants. Vous avez beaucoup d'industries de défense aujourd'hui qui nous disent, mais au fond, je prends du retard parce que j'ai des sous-traitants qui préfèrent vendre à du civil qu'à du militaire. Donc ça, c'est un message que j'envoie publiquement en disant que je suis prêt à le faire. Donc j'invite tout le monde évidemment à s'organiser en conséquence. Puis après, vous avez le dernier recours qui est la réquisition. J'ai dit que je ne l'excluais pas, mais ce n'est pas sur la table au moment où je vous parle, je le redis très clairement, c'est tout simplement que le ministère se substitue et donc réquisitionne soit des encadrements, du personnel, des stocks, des machines pour veiller à la production.
Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au micro de Radio Classique. Autre aspect de la guerre, celle qui se passe dans le monde numérique. Le commandement de la cyberdéfense française est à l'entraînement. La semaine dernière et encore hier ont eu lieu les exercices DEFNET, des simulations grandeur nature pour éprouver les capacités de nos forces armées en matière de cybersécurité. En tout, une centaine de cybercombattants sont mobilisés sur 9 sites en France. Piratage, contre-piratage, formation et réponse en cas d'attaque sur le terrain, comme sur le site de Satory, en région parisienne, un exercice auquel a assisté notre reporter embarqué, Éric Kioch.
Nous sommes à bord d'un blindé Griffon de l'armée de terre, un véritable concentré de technologie, ce qui le rend efficace mais aussi vulnérable aux cyberattaques. La route est dégagée lorsque soudain...
Qu'est-ce qui se passe ?
Plus de direction assistée, plus d'accélérateur. Un message comme quoi on a été hacké.
Tous les voyants d'alerte clignotent. Les tablettes de contrôle sont hors service.
Ah, ici rouge 10. Mon véhicule est immobilisé. On a perdu le contrôle.
En situation réelle, il faut appliquer le protocole élaboré par l'armée en collaboration avec KNDS, la société qui a conçu le Griffon. Des procédures et des gestes réflexes appris par cœur, comme l'explique le commandant Yves.
Une attaque cyber, elle peut continuer à aller compromettre d'autres systèmes. Donc le premier acte qu'il va réaliser, c'est tout de suite de débrancher.
Il faut ensuite sécuriser la zone jusqu'à l'arrivée du groupe d'intervention cyber des experts capable de repérer et contrer les menaces. Ce scénario peut se produire en opération à l'étranger comme sur notre territoire et il faut s'y préparer en vue des JO, notamment le général Émeric Bonnemaison, chef du commandement cyber.
Vous avez des hackers, vous avez des services de renseignement étrangers, vous avez des États, les gens qui voudraient soit se faire de la publicité pour les cybercriminels, soit dégrader l'image de la France. Donc le panel est très vaste pour les JO comme ailleurs.
Durant les Jeux, le commandement de la cyberdéfense ne sera pas en première ligne mais sera une force d'appui de l'ANSI, l'Agence nationale des systèmes d'information.
Un reportage d'Éric Kioch pour Radio Classique, le cyber qui est au cœur de l'actualité avec depuis hier le Forum international de la cybersécurité, événement qui fait date à Lille. Il sera bien sûr question d'intelligence artificielle, de deepfake, mais aussi donc, on l'entendait avec Éric Kioch, des Jeux Olympiques de Paris cet été, événement vitrine, à coup sûr, cible de cybermenaces. Ce forum constitue donc une belle vitrine pour montrer les solutions à mettre en place, comme nous l'explique son directeur Guillaume Tissier.
Les menaces sont principalement la cybercriminalité ordinaire avec les faux sites de billetterie. La deuxième chose, c'est évidemment l'activisme avec potentiellement empêcher l'accès à des services informatiques. Plus grave, le sabotage avec des actions là qui vont cibler des infrastructures sensibles. Alors ça peut être l'air conditionné par exemple. On a vu comme ça dans des JO précédents des infrastructures électriques notamment attaquées. Alors heureusement, il y a des solutions. Ces solutions, c'est d'abord des expertises, des compétences et puis c'est bien sûr aussi des solutions techniques qui vont permettre à la fois de travailler en amont sur la prévention, sur la détection et la gestion de la sécurité au moment crucial. Donc voilà, tout un ensemble de solutions qui sont au cœur du forum.
Autre rendez-vous de la semaine depuis hier et jusqu'à demain, le puissant syndicat agricole, la FNSEA, tient son congrès à Dunkerque, un an après l'arrivée de son nouveau président, Arnaud Rousseau. Il va lui falloir en tirer les enseignements et composer avec une base de plus en plus revendicative, comme nous l'explique Philippe Chalmin, un spécialiste des matières premières et président fondateur de Cyclope.
Ce n'est pas le changement de président qui change l'orientation de la FNSEA. Ce qui est clair, c'est que comme les autres syndicats agricoles, la FNSEA a été manifestement un petit peu dépassée par le phénomène ras-le-bol qui s'est manifesté en début d'année et même encore pendant le salon d'agriculture. Car il y a un vrai malaise agricole que ces manifestations ont mis en évidence. Nombre de commentateurs les accusent d'être les pires des pollueurs, alors que s'il en est un qui est le gestionnaire de notre espace, c'est bien l'agriculteur.
Philippe Chalmin, très légère baisse du Dow Jones hier à Wall Street, moins 0,08%, Nasdaq moins 1,5%, le CAC 40 a progressé de 0,41% à 8184 points, le Nikkei prend un peu moins d'1% en ce moment, l'euro vaut 1,0827. D'autres infos dans une seconde avec Virginie Fulpin et David Amiquet.